pour conclure cette plénière, nous aurons le plaisir d'entendre deux voix engagées pour la filière. Deux femmes, deux élus de terrain, deux députés, deux coprésidentes du groupe d'études aéronautique et espace de l'Assemblée nationale. Cette dernière séquence a pour moi une dimension personnelle, car ce groupe d'études s'inscrit dans la continuité de l'ancien GPE, le groupe parlementaire sur l'espace. J'aimerais en profiter pour rendre un hommage discret à Christian Cabal, alors député de la Loire, qui présidait ce groupe et au sein duquel j'ai débuté mon parcours professionnel en France et fait mes premiers pas dans l'écosystème spatial. Pour commencer, j'invite sur scène Corinne Vignon, députée de la Haute-Garonne et coprésidente du groupe d'études aéronautique et espace de l'Assemblée nationale. Madame Vignon suit de près les évolutions du secteur spatial et défend avec conviction une vision ambitieuse de son avenir. À Paris comme en région, elle s'implique activement pour renforcer la place de la filière, soutenir l'innovation et pour faire du New Space un levier de souveraineté et de développement territorial. Madame la députée.
Merci de votre accueil, Monsieur le Président du CNES, Mesdames et Messieurs les CIO, les directeurs, les vice-présidents, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je suis absolument ravie d'être parmi vous. Alors rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire un grand discours que vous ferez peut-être semblant d'écouter en attendant la pause déjeuner. Pas de discours à rallonge, pas d'annonce, pas de grande théorie. Comme à des partenaires, je vais vous parler. Je vais vous dire une chose simple. Vous êtes essentiels, mais on ne vous entend pas. Oui, essentiels pour nos concitoyens, tant pour leur quotidien que pour leur sécurité. Mais encore aujourd'hui, seuls les initiés vous connaissent, ou ceux qui ont éventuellement la chance de visiter le Space Hub lors du Bourget. Car le spatial est omniprésent dans notre quotidien, il reste trop souvent invisible dans les débats publics, il faut que ça change. Avant d'être élue, moi, l'espace, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune, 1969, j'avais 6 ans, je m'en souviens encore. C'était Thomas Pesquet et Star Wars. Alors, je sais que la référence est un peu basique, mais c'est en devenant maire d'une petite commune limitrophe de la Ville Rose où j'ai découvert, installé dans ma zone d'activité, deux magnifiques PME que je ne citerai pas, mais enfin si, finalement, je vais les citer, RMS et Comat. Et grâce à elles, j'ai été initiée. Députée depuis 8 ans, je représente une circonscription qui a la tête dans les étoiles, réceptacle du CNES, de l'ONERA, du Commandement de l'espace, de la DGA, d'Airbus Defence and Space et de tant de PME et d'entreprises innovantes qui jalonnent mon territoire. Grâce à Toulouse, parce que vous savez qu'à Toulouse, on n'a pas que les chocolatines et on n'a pas que le cassoulet et on n'a pas non plus que des champions du top 14, qui, je le signale tout de même, c'est la troisième. Donc à Toulouse, on crée et on fabrique tout ce qui vole de la très haute altitude au géostationnaire. J'ai eu la chance de vous rencontrer, de découvrir des femmes et des hommes passionnés, innovants, qui m'ont sensibilisé à ce monde si particulier. Univers sans sabre laser, mais avec des satellites, des lanceurs, des radars, des stations sol et des acronymes à n'en plus finir. Et voilà le hic. Vous innovez, vous créez de la valeur, mais pour beaucoup d'élus, vous restez une nébuleuse alors que votre impact est très concret. On ne vous entend pas. Si vous souhaitez le soutien des décideurs publics, des maires, des députés, vous devez leur faire comprendre vos enjeux, vos difficultés et surtout votre valeur ajoutée. Vous devez les interpeller, les inviter, les faire venir chez vous. Il faut absolument leur parler terrain, leur parler quotidien, exit le langage techno, les sigles à rallonge. Soyons honnêtes, à part le GPS ou la télévision satellite, qui connaît dans la vraie vie l'utilité de Copernicus ou de Galiléo ? Les élus parlent de ce que les gens vivent, les retraites, la santé, le pouvoir d'achat. Le spatial n'est absolument pas dans le scope. Alors il est majeur, alors qu'il est majeur pour notre sécurité, pour préserver nos modes de vie, pour faire vivre nos démocraties. Ce qui ne se voit pas s'oublie. Expliquer aux maires, conseillers régionaux, départementaux, ce que le spatial permet vraiment. Une ferme connectée qui irrigue au bon moment. Un feu de forêt détecté avant qu'il ne devienne incontrôlable. Un territoire isolé, enfin relié au monde. Faites-leur imaginer une journée sans spatial, plus de GPS, plus de réseau télécom, plus de météo, plus de détection d'attaques éventuelles. Le spatial est un monde silencieux. Il tient debout tout le reste. Il est vital. Vous êtes la colonne vertébrale invisible de notre mode de vie et pourtant nos décideurs publics, je le dis avec franchise, sont encore loin de mesurer, par exemple, l'étendue des possibles avec les jumeaux numériques. Pourquoi ? Parce qu'on gère, en tout cas lorsqu'on gère une mairie, on débrouille mille tracas du quotidien, on court après les économies. Et voyez, les charges utiles hébergées ou l'interférométrie ne figurent pas vraiment à l'ordre du jour. Le spatial est un sujet d'ingénieur, trop compliqué et réservé aux experts. Alors numéro 1, expliquer son utilité pour cartographier avec précision le territoire, organiser les secours en cas d'inondation, mesurer l'empreinte carbone d'un bâtiment public, repérer les toits propices aux panneaux solaires, choisir les arbres mieux adaptés au terrain. Là, ça parle. Là, ça devient utile. Il faut communiquer, vulgariser, montrer que le spatial n'est pas une niche, qu'il est partout, qu'il irrigue tous les secteurs de notre économie. Numéro 2, être soutenu. Pour cela, il vous faut des alliés. Cherchez vos députés relais, ceux de vos territoires, vos partenaires convaincus, ceux qui comprennent vos enjeux et qui peuvent faire remonter vos difficultés, vos freins, vos urgences. Ce sont ceux et ce sont eux qui peuvent aider à secouer le cocotier, à réaffirmer que le New Space ne peut pas se contenter de vieilles règles. Oui, il faut simplifier et accélérer, adapter notre cadre réglementaire à votre vitesse d'innovation. Le monde change. Et il serait temps de changer avec lui. Il faut changer de prisme, de méthode, vivre avec son temps. La compétition technologique est féroce et les grandes puissances investissent massivement dans le secteur. Pas demain, aujourd'hui et nous, alors que nous avons les talents, les ingénieurs, les infrastructures et un savoir-faire précieux et innovant, nous avons aussi un sacré carcan administratif lourd, réfractaire au risque, rigide, bourré de procédures qui freinent l'élan de l'innovation et l'agilité pourtant demandées. Nous n'avons pas les budgets XXL qui nous permettent de rivaliser avec les États-Unis ou la Chine, mais on se tire une balle dans le pied en conservant une méthodologie qui correspond à ce qu'on faisait il y a 15 ans. Je dis non, il faut qu'on soit plus malin et plus agile. Dans un univers dual où l'espace est un usage indispensable pour nos armées, nous n'avons plus le luxe d'attendre et nos militaires encore moins. L'armée française a besoin d'outils qui répondent à ses besoins maintenant et vous êtes en capacité de lui fournir, à une condition qu'on vous y permette. En plus, vous le savez, les lignes budgétaires sont figées, les contraintes réglementaires et administratives sont des freins. Les processus rigides, trop longs, sont bloquants et les idées innovantes restent souvent sur la touche. L'administration pense en années, alors que vous pensez en mois, voire en semaines. Résultat, quand une solution utile émerge, elle est hors jeu même avant le coup d'envoi. Cette logique, à long terme, est mal adaptée au cycle court de l'innovation. Il faut donc changer de rythme, alléger les procédures, réduire le temps d'analyse et de réflexion est une priorité impérieuse pour soutenir l'écosystème. Nous ne parlons pas ici simplement d'une filière d'avenir, il s'agit de préserver notre souveraineté dans un monde où les menaces ou l'arsenalisation de l'espace est présente. Nos militaires n'ont pas besoin d'objets parfaits dans 10 ans, ils ont besoin d'efficacité maintenant. Le renforcement du commandement de l'espace est un signal fort pour cette année 2025. Il faut, selon moi, qu'il soit doté d'un véritable pouvoir d'acheteur pour rattacher les stratégies industrielles aux besoins réels de la défense, comme les petits lanceurs, la SSA, les satellites patrouilleurs, etc. Lors des auditions menées dans le cadre de notre rapport avec mon collègue Arnaud Saint-Martin, qui est dans la salle, je ne sais pas où, mais je le salue, vous nous avez confié une réalité des chiffres. L'autofinancement et l'appel aux capitaux privés ne permettent pas de développer des capacités souveraines sans la puissance publique. Vous nous avez exprimé qu'il existe de grandes difficultés entre l'innovation issue de l'AID et son intégration vers des programmes capacitaires. Même si le soutien à l'innovation existe, d'ailleurs France 2030 a été un accélérateur, le passage à l'opérationnel est trop souvent absent. C'est le maillon faible, c'est là qu'il faut agir. Il est temps pour moi de conclure mon propos. Le New Space n'est pas une mode, ce n'est pas un effet de com' comme vous le voyez souvent en politique. Le spatial est un apéritif stratégique pour notre économie, pour notre sécurité, pour notre souveraineté, pour la France, pour l'Europe. Il est désormais crucial de structurer une commande publique plus lisible et prévisible dans le temps, d'accélérer l'acquisition d'équipements clés, de booster le financement populaire, d'actualiser rapidement la loi de programmation militaire dans son volet spatial ou de positionner la France comme leader européen de la surveillance orbitale et de la gestion des débris. Comme vous, j'attends avec impatience une stratégie spatiale nationale orientée vers des priorités claires pour que la France ne rate pas son virage stratégique. Votre engagement aujourd'hui prépare les grandes missions de demain. Vous êtes bien plus que des visionnaires. Vous êtes des bâtisseurs de notre souveraineté spatiale, les architectes d'un écosystème compétitif, les garants d'un usage durable, vertueux et stratégique de l'espace. Mesdames et messieurs, chapeau bas. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup, Madame la députée, pour cette tribune engagée pour l'avenir du secteur spatial. Je pense qu'on vous prendra au mot pour acculturer nos députés et parler du spatial dans l'hémicycle plus souvent, plus régulièrement. Et je sais que vous êtes beaucoup aujourd'hui avec nous. Et donc, on vous remercie d'être là pour porter les messages du secteur spatial et les enjeux surtout qui sont associés. Pour la suite de cette plénière et pour terminer cette plénière, j'invite Madame la députée Christine Arriguier, coprésidente du groupe d'études aéronautiques et spatiales avec Corinne Vignon, qui pourra aussi nous porter sa vision du secteur spatial et les grands enjeux. Madame la députée, c'est à vous.
Je vous remercie. Merci de votre accueil, chers partenaires du spatial, chers acteurs publics, industriels, académiques, citoyens engagés, mesdames et messieurs. C'est donc avec un très grand intérêt que je m'adresse à vous aujourd'hui, puisque le New Space n'est pas seulement une transformation industrielle et économique, mais c'est aussi un moment politique, un moment où nous devons collectivement réfléchir à la direction que prendra notre avenir spatial, à défaut que ceux qui doivent le faire ne le fassent. Vous avez pris le pouvoir et vous avez bien raison, Monsieur Rapp. Et c'est en conscience des enjeux démocratiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques qu'il implique. Le New Space, vous l'avez brillamment défini, c'est un écosystème dit de rupture, d'agilité, de prise de risque assumée. Il se veut prolonger notre excellence technologique en fédérant start-up et grands groupes. Et nous en avons eu une parfaite illustration ce matin dans les différentes tables rondes extrêmement intéressantes à laquelle nous avons assisté, où on a réinventé la chaîne de valeur dans un espace mondialisé. Il soulève toutefois une responsabilité politique majeure, puisque derrière la conquête des marchés, il y a des enjeux vitaux de souveraineté. Et en ce sens, nous devons assurer à la France et à l'Europe un accès autonome, sécurisé et durable à l'espace. Cela implique une stratégie industrielle de long terme, comme bien d'autres stratégies industrielles, notamment, puisqu'ils me sont chers, les transports et la mobilité, des investissements durables soutenus, un pilotage stratégique rénové et une volonté assumée de faire émerger un New Space souverain qui s'appuie évidemment sur l'ensemble des réussites que nous avons pu engranger en France et en Europe pendant des années et des années. Il n'y a pas le New Space et le Old Space, il y a le Space d'aujourd'hui. Pour le pilotage de ces enjeux, je soutiens pleinement l'idée de la création d'un Conseil national de l'espace rattaché au Premier ministre tel que vous nous l'avez présenté. Ce Conseil serait le garant d'une stratégie spatiale transversale, coordonnée et lisible à l'horizon 2040-2050. Pourtant, au-delà des enjeux de souveraineté industrielle, une question fondamentale reste trop peu posée, celle de la gouvernance démocratique de l'espace. Nous parlons de budget, des technologies, des logiques industrielles, des partenariats militaires et civils, mais à quel moment débattons-nous publiquement de ces choix ? Où sont les citoyens, les salariés, les chercheuses dans cette stratégie ? Ils sont évidemment réunis ici, mais il faut pousser les murs et il faut ouvrir les fenêtres. Estelle Moreau l'a dit tout à l'heure et l'a parfaitement bien évoqué et je rejoins complètement son propos. Aujourd'hui, les décisions majeures restent prises dans une relative opacité entre acteurs restreints, on confond concertation et communication et quand je parle démocratie spatiale, on me répond sommet de l'espace. C'est utile, mais cela ne remplace ni le débat, ni la consultation, ni le contrôle citoyen. Le spatial irrigue nos politiques publiques, environnement, climat, santé, connectivité, mais aussi surveillance, voire contrôle citoyen, sécurité, mais aussi ciblage militaire stratégique, voire humain. Il est donc légitime d'exiger une gouvernance transparente, démocratique et pilotée par l'intérêt général. C'est aussi pourquoi l'avenir du spatial ne peut s'écrire sans repenser en profondeur notre rapport à l'environnement orbital comme terrestre. Aujourd'hui, les orbites deviennent saturées, les débris se multiplient, les risques de collision augmentent. Il est impératif de faire de la durabilité spatiale une exigence normative et éthique. À l'échelle internationale, nous ne devons plus ignorer la réalité physique des orbites ni le principe de responsabilité environnementale. Des pistes telles que l'obligation de fin de vie contrôlée des satellites, la taxonomie verte intégrant des technologies orbitales et la politique de désorbitation obligatoire par tous les opérateurs présents sur le marché européen peuvent être mobilisées. Nous devons aussi faire de la donnée spatiale un instrument de transparence environnementale en la rendant juridiquement recevable pour le suivi des normes climatiques, la surveillance de la déforestation, les pollutions marines ou les émissions nuisibles à l'environnement. C'est une réforme qu'il me semble utile évidemment de porter à Bruxelles, mais elle peut venir de la France, nous y sommes prêts. Toutefois, la transformation du secteur ne doit pas se faire au prix de l'effacement progressif de nos savoir-faire. Le New Space porte des promesses d'agilité, de services à impact sociétal, de réactivité technologique. Nous devons bien entendu les soutenir. Mais cela ne peut se faire en sacrifiant les compétences précieuses et les expertises rares qui font et qui ont fait la force de notre filière spatiale. Pendant que les investissements se consacrent sur quelques champions, des pans entiers du tissu industriel traditionnel se fragilisent, et je le sais particulièrement étant de Toulouse. Des plans de licenciement se multiplient, des centres de recherche et de développement se vident, des métiers uniques disparaissent. Or, le spatial, ce n'est pas une industrie comme les autres. On ne forme pas un expert en optique orbitale ou en propulsion cryogénique en quelques mois. Chaque compétence perdue, chaque savoir non transmis est une perte nette pour notre souveraineté et notre capacité d'innovation. Nous devons penser une stratégie d'ensemble où l'émergence des nouveaux acteurs ne se fait pas au détriment des fondations industrielles et scientifiques de notre pays. Ces constats doivent nous conduire à investir dans des programmes structurants de services à impact sociétal en garantissant leur accessibilité à toute la filière et en favorisant les passerelles entre l'ancien et le monde nouveau. Mesdames et messieurs, je pense aussi que le spatial de demain doit être au service des grands défis sociaux tels que l'adaptation climatique, la résilience alimentaire, la gestion des crises, et nous en avons besoin, la lutte contre les inégalités d'accès au numérique. Il engage également les choix civilisationnels majeurs sur lesquels je souhaite attirer notre attention collective. Et je pose des questions, je n'ai pas les réponses. Doit-on extraire des ressources extraterrestres ? Privatiser l'orbite ? Militariser les constellations ? Depuis la création du commandement de l'espace en 2019, la France a pris un virage vers une stratégie de défense spatiale. Au service de quelle vision ? Le spatial ne peut être réduit à un théâtre d'opérations militaires. Il est temps d'ouvrir un grand débat citoyen sur l'espace. C'est pourquoi je soutiens l'idée que vous portez également d'instaurer une journée nationale de l'espace organisée chaque année. Elle pourrait, et je le suggère, être organisée le dernier samedi de novembre. En fait, c'est une proposition en mémoire au lancement du satellite français Astérix. Cette journée ne doit pas être impérativement et simplement une célébration. Elle doit être également l'occasion d'organiser une consultation publique, d'impliquer les jeunes dès le plus jeune âge et de rendre compte des engagements du spatial aux citoyens. J'ajoute que cette initiative pourrait être proposée à l'échelle européenne dans le prolongement de la Semaine mondiale de l'espace. L'espace, ce n'est pas seulement un terrain de compétition technologique. Il est un miroir de nos choix collectifs. Il révèle nos fractures, mais aussi nos potentiels de coopération, de progrès et, je l'espère, de résilience. Je veux donc ici saluer votre travail et vous rendre particulièrement hommage, Monsieur Rapp, dans sa richesse, dans sa précision, dans sa vision, et vous dire la disponibilité du groupe d'études sur l'aéronautique et l'espace que j'ai l'honneur de co-présider avec Corinne Vignon pour continuer et porter ces sujets tant au niveau national qu'européen. Je vous remercie de votre attention.